C'est un vrai plaisir ce matin que j'ai de pouvoir accueillir en notre nom des visiteurs parmi nous, Daniel et Marianne Goldschmidt. Certainement beaucoup d'entre vous les connaissez déjà. Daniel et Marianne sont ceux qui sont venus comme pour être les chevilles ouvrières un petit peu du projet qui se développe à Bellegarde sous la conduite de l'église de Saint-Genis pour un témoignage là dans cette ville de Bellegarde. Et donc on est vraiment heureux de les avoir ce matin pour la participation à notre culte. Et tout à l'heure, Marianne nous donnera des informations beaucoup plus précises sur ce qui se fait en ce moment à Bellegarde. Et on a eu à cœur de les avoir parmi nous ce matin parce que nous aussi, pendant de longues années, on a eu à cœur et on a toujours à cœur le rayonnement et le témoignage de l'Évangile dans cette région et en particulier sur la ville de Bellegarde. Donc on sera content d'entendre de ces nouvelles. Moi, je suis particulièrement heureux aussi de retrouver Daniel. Après de nombreuses années où on s'est perdu un petit peu de vue, ça ne nous rajeunit pas tout à fait, Daniel, mais Daniel et moi, on ne vous fera pas un duo, mais on a chanté pendant un bon moment dans le même groupe de musique, un chœur d'hommes, et je ne sais plus si on se souviendrait de tout, mais en tous les cas, moi j'ai encore des images vives de tournée de ce groupe ensemble, et donc c'est avec un vrai plaisir que je retrouve Daniel ce matin. Donc Daniel, Marianne, merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Merci beaucoup d'être non seulement des amis, mais aussi membres du corps de Christ. Et nous sommes tout ouverts pour être enrichis par votre présence ce matin. Daniel.
Alors si c'est un privilège pour vous que de nous recevoir, je ne vous dis pas ce que c'est pour nous. C'est tout un symbole. C'est fort. On a beaucoup de connexions avec plusieurs personnes et par divers biais qui remontent jusque dans notre jeune âge. À la fondation des temps. Voilà, donc pour la durée des temps, je suis heureux de pouvoir ce matin vous saluer. Et puis, donc, Marianne vous donnera d'autres détails sur les raisons de notre présence à Bellegarde et puis pour les raisons pour lesquelles nous avons quitté la belle Alsace pour rejoindre l'église de Saint-Genis. Alors maintenant, je vous propose de nous tourner un peu vers un morceau de temps, on va dire, vers ce que la parole nous dit. Et j'aimerais lire avec vous deux textes. Le premier dans Romains 13, pour aborder un thème rarement abordé, mais je suis tout à fait ouvert. Vous savez, dans les anciennes églises anabaptistes, il y avait un temps après la prédication pour donner d'autres avis. Donc si vous voulez donner d'autres avis après, je suis tout à fait ouvert. Romains 13. Tout homme doit se soumettre aux autorités qui gouvernent l'État, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre établi par Dieu. Ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. En effet, les dirigeants ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien, mais par ceux qui font le mal. Désires-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Alors fais le bien et elle t'accordera des éloges, car elle est au service de Dieu pour te pousser au bien. Mais si tu fais le mal, crains-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle a le pouvoir de punir. Elle est au service de Dieu pour montrer sa colère contre celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre aux autorités, d'obéir aux autorités, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore par devoir de conscience. Jusque-là, et je vais lire un deuxième texte. Ce premier texte, il est assez massif, je ne sais pas comment... C'est relou, hein, c'est... comme diraient les jeunes. Hein. Alors, un autre texte qui, je ne sais pas, vous le qualifierez, et vous me direz ce que vous en pensez. Apocalypse 13. Je ne sais pas quand vous avez la dernière fois abordé l'Apocalypse en ce lieu et en ce un dimanche matin, mais voilà, à partir du verset 5, on parle de la bête. La bête fut autorisée à prononcer des paroles orgueilleuses et insultantes pour Dieu. Elle reçut le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle se mit à parler contre Dieu, à insulter son nom et le lieu où il demeure, ainsi que tous ceux qui demeurent dans le ciel. Elle fut autorisée à combattre les membres du peuple de Dieu et à les vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est-à-dire tous ceux dont le nom ne se trouve pas écrit depuis le commencement du monde dans le livre de vie, le livre qui appartient à l'agneau mis à mort. Et je saute au verset 18. Ici, il faut avoir de la sagesse. Celui qui est intelligent peut résoudre le problème posé par le chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme, et 666. Il faut être intelligent quand on lit la Bible. C'est ce que j'apprends. Alors, est-ce que je peux te demander de lancer le... Ah, c'est par là. Alors, voilà. Je vous propose ce matin de parler de l'obéissance. Faut-il toujours obéir ? Je vois les parents qui me regardent avec angoisse. Bon, les enfants ne sont pas là. Pas de soucis, ne craignez rien, on est entre nous. Alors, il y a peut-être des parents un peu plus âgés, comme moi, qui s'angoissent encore. Et moi, ce que j'ai effectivement appris, c'est ce petit chant, ça c'était avant la chorale de Vaux sur scène. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Voilà. Vous connaissez Pierre Van Verden, Éphésiens 5. Et en fait, dans ma tête de petit enfant, ça voulait dire, et peut-être aussi j'ai amené ça à l'âge adulte, l'autorité parentale a toujours raison, n'est-ce pas ? J'ai eu un petit doute quand je suis devenu parent. Et j'entends aussi, j'ai souvent l'extrapolation, toute autorité a raison. Et c'est comme ça, avec ces lunettes-là, qu'on lit Romains 13. Alors là, tu peux passer la première. Voilà. Ce que j'observe dans la société, comme on dit, c'est les enfants n'obéissent plus. En fait, moi, je pense que c'est plus... Les parents ne savent pas se faire obéir. Il y a une crise d'autorité, notamment chez les pères. Et les enfants cherchent leur repère. Et ce que j'observe, par contre, en général, c'est qu'on est plutôt obéissant par nature. Et je dirais par paresse. C'est plus simple. Et je voudrais vous raconter une histoire qui est assez connue. Peut-être que vous l'avez entendu parler. De ce psychologue américain qui, dans les années 60, a fait une expérimentation. Et cela l'a conduit à mesurer le niveau d'obéissance à un ordre, même si cet ordre allait contre les valeurs morales de la personne. Donc ça s'est passé comme ça, en deux mots. Il s'appelait Stanley Milgram, pour ceux qui sont au courant. Donc il a recruté des sujets qui ont accepté de participer sous l'autorité d'une personne supposée compétente à une expérience d'apprentissage. Et on leur a demandé de vérifier la manière dont les gens apprenaient en appliquant des traitements cruels sous forme de décharges électriques à ces personnes qui, a priori, étaient inconnues d'eux. Et donc, il s'agissait de vérifier la capacité d'apprentissage de ces personnes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lors des premières expériences, presque le tiers des sujets ont mené l'expérience en infligeant des coups d'électricité jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à des électrochocs de 450 volts. Tous les participants acceptent le principe, se soumettent au principe annoncé, et éventuellement, même si on les encourage, ils atteignent les 135 volts. Alors, dans la réalité, je vous rassure, il n'y avait pas de courant électrique. C'était des comédiens qui mimaient l'effet de la décharge sur le corps. Alors, Milgram, le psychologue, a conclu que l'obéissance à une autorité, elle est spontanée et naturelle, parce qu'elle permet d'éviter le conflit avec les représentants de l'autorité. Et le conformisme en est le ressort. Il conclut que si elle n'est pas toujours un mal, l'obéissance aveugle peut aboutir au mal. Ma conclusion, c'est que la désobéissance, à l'inverse, demande un effort, une réflexion critique. Et je pose la question ce matin, je vous pose la question, est-ce que cela ne rejoindrait pas l'encouragement de Paul, que nous n'avons pas lu, mais qui est juste un chapitre avant, dans Romains 12, ne vous conformez pas à l'esprit du siècle, au monde environnant. D'où le thème, la désobéissance civile. Tu peux passer à la prochaine ? C'est ce que je vous propose de considérer un instant. Qu'est-ce que la désobéissance peut avoir de bon ? Et pas seulement la désobéissance à un titre individuel, mais la désobéissance civile, en groupe. Donc, si je prends ce terme, désobéissance civile, il s'agit de pointer un acte public, non violent, contraire à la loi, et accompli le plus souvent pour amener un changement dans cette loi, ou bien dans la politique, parce que sur ce point précis, on estime qu'elle est injuste, illégitime. Alors, c'est différent des actes de révolte, des manifestations qu'on peut voir en la télé, parce que la désobéissance civile, écoutez bien ça, parce que ça on l'oublie volontiers, la désobéissance civile reconnaît le droit aux autorités de punir la violation de la loi. On viole la loi et on s'attend à être puni. On est prêt à assumer les conséquences de ces actes. En cela, la désobéissance civile est très différente de l'esprit révolutionnaire qui veut tout casser. Non, il ne s'agit pas d'être anarchiste. C'est sur des points précis. C'est pour faire changer des choses qui sont estimées injustes, illégitimes, mais ça reste collectif, donc menaçant pour l'autorité, mais on est prêt à en assumer les conséquences. Les chrétiens seraient-ils aussi appelés dans leur effort de non-conformité à désobéir et à désobéir collectivement ? Alors, que nous dit la Bible là-dessus ? Alors, la première réaction, c'est de dire, mais attendez, pas mal de textes dans la Bible qui nous parlent d'obéissance aux autorités. J'ai lu Romains 13, qui est cité le plus souvent. Et comme dans Romains 13, souvent l'obéissance est présentée comme une vertu et Dieu comme un Dieu d'ordre. Par exemple, bon, Dieu a donné la loi à Moïse et puis il attend l'obéissance du peuple. Dans le Nouveau Testament, pour aller vite, Jésus ne remet pas en cause le paiement de l'impôt du temple ou alors de l'impôt à César. Encore que, il dit que c'est par concession. Et payer l'impôt, c'est aussi une forme d'obéissance, au moins tacite. Après, quand on passe à l'apôtre Paul, je viens de lire Romains 13, Paul recommande de se soumettre aux autorités romaines, aux autorités politiques, fiscales, policières et judiciaires. Et 1 Pierre évoque cela aussi, enfin Pierre dans son épître. Et Tite. Ok, d'accord. Maintenant, ce que je remarque, c'est que souvent, cette soumission due aux autorités humaines, elle est relative. Prochaine dia. Parce que si on lit plus précisément les textes dans leur contexte, on voit qu'il y a une relativisation de cette exigence. Par exemple, Pierre donne le ton. Le même Pierre qui a écrit qu'il faut se soumettre aux autorités dans sa lettre, il nous dit, dans le premier chapitre des Actes, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et il désobéit massivement aux autorités du temple et au Sanhédrin. Alors à propos de Romains 13, c'est un peu compliqué, mais je vous donne quelques pistes. C'est vrai que si on va vers l'épître aux Romains, et notamment Romains 13, si on le reçoit comme un texte normatif, comme un code juridique. Et on dit, oui, Paul nous présente la théologie de l'État, comment il faut voir l'État et la position du chrétien face à l'État. Ben oui, on va accepter les choses un peu comme ça. Mais moi, je suis pour considérer, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, Romains comme un message, une lettre, un message à contextualiser. Vous savez, vous avez dû recevoir une lettre d'amour à un moment dans votre vie. Vous l'avez contextualisé, vous avez un visage sur la main qui a écrit cette lettre. Et ça vous a permis de lire d'une manière fantastique des mots qui, ma foi, étaient assez banals. Je ne pense pas que Votre conjoint était forcément un grand poète et qu'il a été immortalisé depuis, ou bien c'est votre regard sur le contexte général qui a fait que vous voyez une belle chose là-dedans. Mais c'est la même chose dans Romains 13. C'était une lettre qui s'écrivait dans un temps précis à des personnes précises, dans un contexte précis. Donc, quand Paul affirme que Dieu est souverain et que le Christ est au-dessus du pouvoir humain, mais ça, c'était déjà révolutionnaire, parce qu'il y avait un autre qui prétendait être le seul, l'empereur. Et ça, c'est pas seulement du temps des Romains. Depuis le roi d'Israël jusqu'à l'époque des Romains, ça, c'est le fond, ça, c'est le contexte qui permet de lire ces textes. Et c'est vrai, tant que les chrétiens n'ont pas été, entre guillemets, aux commandes, c'est-à-dire jusqu'au IVe siècle, la confession de Jésus-Christ comme Kurios, Seigneur, confrontait directement la prétention de l'empereur, du roi, à être autorité d'essence divine. Alors après, il y a eu ces 17 siècles où les chrétiens étaient du côté du pouvoir. Et ça, aujourd'hui encore, ça colore même les traductions, jusqu'aux traductions que nous avons lues. Et en tout cas, notre compréhension. Notamment ce terme « autorité instituée » ou « autorité établie ». Je l'ai lu même dans un français courant. Et là, je me réfère à un théologien que vous connaissez peut-être, John Yoder, un théologien mennonite, qui dit qu'il faut préférer à autorité établie, autorité mise en ordre. Vous savez, c'est l'image du bibliothécaire. Le bibliothécaire qui... Dieu est comme un bibliothécaire dans sa création et il range tout pour éviter que ce soit le souk complet. Mais est-ce que vous pensez que le bibliothécaire approuve tout ce qui est dit dans tous les livres? Et même souvent, quand il y a des citations, on dit en dessous, ça ne veut pas dire qu'on approuve tout ce que l'auteur dit. Moi, je ne pense pas que Dieu approuve particulièrement et moralement ce que fait tout gouvernement. Pas plus qu'un bibliothécaire ne crée ni n'approuve le livre qu'il classifie et range dans ses étagères. De même, Dieu ne prend la responsabilité ni de l'existence des puissances révoltées, ni de leur forme ou de leur identité. Ça, c'est référence à Éphésiens, sur les puissances révoltées, et référence, on en dira un petit mot tout à l'heure, dans Apocalypse. Alors, finalement, le point de vue légitimiste, vous savez, le point de vue qui dit, puisque l'autorité est là, elle a raison. Ça nous fait passer à côté de l'ironie aussi, ça c'est un deuxième aspect. Paul manie l'ironie dans Romains 13. Et c'est le contexte qui le dit ça, contexte général. Pourquoi ? Non seulement Paul savait que les autorités gouvernementales n'étaient pas toujours fidèles gardiens du bien, comme il l'affirme ici, mais en quelques années après la rédaction de cette lettre, Néron allait brutalement persécuter les chrétiens. Alors, quand il dit fidèles gardiens du bien, je pense qu'il avait une petite arrière-pensée. En plus, Paul lui-même a été exécuté sur l'ordre de Néron. Et lorsqu'il encourage les croyants au verset 3 à faire le bien pour ne pas avoir à craindre les autorités, il complète plus loin de ne craindre que ceux à qui la crainte est due. Donc pas toutes les autorités, mais celles qui le méritent quand elles font le bien. Il semble qu'on a un message codé adressé qui ont des oreilles à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Paul et ses lecteurs savent par expérience que la crainte est toujours de mise, car les autorités peuvent punir sans pitié ceux qu'elles perçoivent comme une menace. Donc, la soumission que Dieu nous demande, elle est relative. Mais elle peut aller même jusqu'à la désobéissance civile, ou la non-conformité avec ce que les autorités demandent. Et les Écritures qui nous dirigent, qui nous inspirent, présentent des exemples et des principes qui vont dans cette direction. Les sages-femmes. Bon, ma femme en fait partie et je suis bien passé pour savoir que, ma foi, elle n'est pas toujours forcément obéissante. Aux autorités, aux autorités. J'ai pas dit au mari. Les sages-femmes du peuple hébreu en Égypte violent l'ordre du mari, non, du pharaon au nom de leur crainte de Dieu. Et elles recherchent le bien de leur peuple, même si elles ne parviennent pas à changer la politique des autorités. Vous connaissez cette histoire. Après, d'ailleurs, la désobéissance a commencé, a continué, puisqu'on a camouflé Moïse. Puis on l'a allaité par sa vraie mère, alors que, en fait, elle était élevée par la fille du pharaon, et tout ça au nez et à la barbe de l'autorité. Alors, bien plus tard, quelques temps plus tard, la fuite hors d'Égypte, c'était pas aussi vraiment l'obéissance à Pharaon. Et même Moïse va exprimer au nom de la parole de Dieu et de la foi en lui le refus collectif d'une soumission inconditionnelle à un gouvernant. Allez, on saute, il faut aller vite, jusque dans le livre de Daniel. Et là, il y a deux exemples. Il y a les trois, Shadrach, Meshach, Abednego, qui désobéissent à l'ordre du roi, qui refusent de se prosterner devant une statue en or. Alors c'est vrai qu'ils n'appellent pas à l'obéissance tout le peuple, mais ils montrent l'exemple. On pourrait dire que c'est plutôt de l'objection de conscience que la désobéissance civile. Et ils ont été délivrés miraculeusement de la mort. Et suite à ça, le roi changera toute la politique religieuse au bénéfice de tout le peuple juif. Et puis Daniel, prophète, lui-même nous donne le second exemple. Il refuse d'obéir au roi et il poursuit ses prières au Dieu d'Israël. Il ressort miraculeusement de la fosse au lion, ce qui conduit le roi à donner l'ordre de respecter le Dieu de David dans son royaume. Là aussi, objection de conscience à l'origine et ensuite conséquence collective. Si on passe au Nouveau Testament, il y a d'abord les mages qui désobéissent à l'ordre du roi et puis qui ne retournent pas par le même chemin et refusent de l'informer. Et puis Jésus qui rompt avec la pratique religieuse des pharisiens en faisant du bien le jour du sabbat. Et puis Jésus, toujours le même, qui pose un acte symbolique en chassant les marchands du temple avec leur bétail. Et c'est vraiment une très forte dénonciation de l'ordre établi. D'ailleurs, à propos d'histoire de la traduction, si on lit ce texte dans Matthieu 21, la manière dont ça a été traduit dans l'histoire est reconnue par les exégètes comme erronée, parce qu'on voulait justifier la violence historique en disant que Jésus avait frappé les marchands du temple. En fait, le texte dit qu'il a conduit les animaux en dehors du temple. Mais il y a deux manières de lire, et on peut le lire de deux manières en fonction du grec, mais on a privilégié la manière qui justifiait l'utilisation de la violence par l'autorité. C'est un petit excursus que je vous fais là. Après, les premiers chrétiens refusent l'ordre des autorités religieuses juives de taire leurs prédications et ils énoncent ce qui fonde les limites de l'obéissance à n'importe quel pouvoir. Est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? Et puis, le texte que je vous ai lu dans l'Apocalypse, Jean, le voyant, appelle les croyants à la résistance et au discernement. Ça, ce sont autant de récits qui pointent vers la possibilité pour des chrétiens, aujourd'hui encore, d'objecter collectivement aux lois ou à des mesures estimées mauvaises. Mais la raison principale en doit en être l'allégeance ou l'obéissance première à Dieu et à sa parole. On peut passer la prochaine dia. Qui évoque les diverses situations. Alors, il y en aurait énormément. J'ai extrait quelques exemples du passé, qui je trouve des exemples inspirants d'un passé pas trop lointain, pour ne pas saouler les jeunes. La Première Guerre. Bon, il faut quand même qu'on fête, parce que c'est les 100 ans de son début. Les soldats allemands et français fraternisent malgré les ordres. Vous connaissez peut-être le film de Christian Carion, « Joyeux Noël ». Qui l'aurait vu, celui-là ? Ouais, c'est bien connu. Et pour ceux qui ne l'auraient pas lu, qui ne l'auraient pas visionné, faites-le. Bon, c'est un exemple. Alors, l'inspiration n'était pas franchement, officiellement chrétienne, mais encore. Pendant la Deuxième Guerre, des femmes d'un ghetto se lèvent et font plier Goebbels, excusez du peu. Il y avait un article d'ailleurs dans Christ seul, pour ceux qui l'ont chez vous, en octobre 2013, 1000 femmes contre Goebbels qui racontent cette histoire. Je veux dire, il n'y a pas de pouvoir plus horrible, on peut dire, que celui qui s'est exercé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on prend généralement les situations de la Seconde Guerre mondiale comme des exemples et des justifications à l'obéissance à l'autorité et, au contraire, à la violence qui élimine l'autorité ou qui à la guerre juste en général. Non, il y a des exemples où, fidèlement, des personnes ont pu collectivement désobéir et cet effet de groupe leur a permis de ne pas être éliminés, au moins tout de suite. Finalement, la manière dont les peuples de l'Est se sont débarrassés du communisme a fait largement appel à la désobéissance civile. Enfin, ceux qui ont mon âge savent ça. On a parlé en 79 de Solidarnosc et puis pendant toute la décennie qui a suivi, ce qui a conduit à la chute du mur. La révolution de velours en Tchécoslovaquie. On fête les 50 ans, je crois, de Jan Palach. Bientôt. Non, c'est pas encore. C'était en 67, voilà. La chute du mur en Allemagne est plus près de nous ce qui se passe en Ukraine. Bon. Dans un contexte démocratique, la désobéissance civile a aussi sa place. C'est vrai, nous, on a toujours tendance à penser ailleurs en disant, oui, s'il y a désobéissance, c'est forcément contre un pouvoir communiste ou un pouvoir anti-Dieu. Mais est-ce que vraiment nos démocraties sont aussi tolérante et démocratique qu'elles le prétendent. Ce qu'on voit, c'est qu'un pouvoir se mue facilement en un système au bénéfice d'un groupe social au détriment de la majorité du peuple. Et si je prends l'exemple du mouvement des droits civiques aux États-Unis, emmené par le pasteur Martin Luther King, ben ça reste quand même un exemple pour nous évangéliques. La prochaine dia. Alors vous me direz aujourd'hui, tu nous saoules avec l'histoire, avec une certaine vision biblique. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, je vous dirais, ce n'est pas les domaines d'application qui manquent. Par exemple, il y a les lois qui limitent la liberté de culte. Elles peuvent toutes justifier une action de désobéissance collective, consciente et médiatisée. En effet, l'annonce de l'Évangile tombe sous le principe de l'obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tout régime totalitaire, dictatorial, divinisé ou pervers peut aussi motiver des chrétiens à un refus de collaboration, voire à une dénonciation ou à un appel à la désobéissance. À titre de désobéissance, on connaît bien frère André, qui massivement désobéissait aux ordres de ne pas diffuser la parole de Dieu. Alors c'est vrai que quand le régime qu'on a en face de soi est un régime totalitaire, le prix à payer peut en être élevé. Et notre rôle, un peu comme portes ouvertes, est de soutenir ces chrétiens persécutés. Je dirais que de nos jours, à nous, chrétiens en Occident, se pose un problème plus difficile. Une exigence de vigilance à l'égard des régimes soi-disant chrétiens. Parce que quand ces régimes usent de contraintes ou de manipulations au nom de la foi pour obtenir l'adhésion des populations et faire passer des lois iniques, par exemple en faveur de lobbies militaires ou industriels, parce qu'on a voté pour eux, par ce biais-là, je pense qu'on peut se lever. On peut se lever et dire non collectivement. Il y a un livre récent qui s'appelle, dont le titre est « Que ton règne vienne, que ton royaume vienne », que Philippe Gonzalez, que d'aucuns connaissent, a écrit, et qui montre en quoi il y a une tendance dans les églises évangéliques, notamment de Suisse, mais ça a tendance à venir ici aussi, à, sous couvert de jamais faire de politique, toujours, à se laisser berner par, on va dire, les politiques de droite, voire d'extrême droite, qui peuvent véhiculer de la haine. Et là aussi, nous voulons être et nous devons être vigilants. Le domaine de l'éthique familiale, sexuelle, du début et de la fin de vie, là, on y est naturellement plus sensible. Et ça a mobilisé pas mal de nous, chrétiens évangéliques, dans, je ne sais pas si vous avez participé, vous, aux marches à Paris ou à Lyon. Et je pense qu'on doit dénoncer les logiques de maîtrise à tout prix de la vie. Ou alors de marchandisation, hein, toute cette question de la grossesse portée par autrui, par quelqu'un d'autre. Et tout ça, c'est des évolutions sociétales et où la loi suit les grandes tendances de la société. Et là, la meilleure désobéissance, c'est de montrer un exemple différent. C'est-à-dire qu'on accueille tous ces laissés pour compte, que ce soit les fœtus, entre guillemets, non viables, mais aussi à l'autre bout de la vie, les personnes qui sont plus rentables et qui coûtent cher parce que, à la société, parce qu'elles sont dépendantes. Et je passe, nous devons aussi montrer un autre exemple concernant les personnes handicapées. Et pourquoi pas aussi en aimant les personnes différentes, qu'elles soient homosexuelles ou autres. Donc dans ce domaine-là, on rencontrait, et pas plus tard qu'hier, avec Marianne, un couple qui se trouve face, surtout dans les hôpitaux français, face à une pensée unique qui vise à éliminer avant la naissance tout enfant mal formé, ou surtout si la malformation est lourde. Et on a encouragé ce couple à suivre une autre voie, qui est celle de l'accueil de l'enfant, tout en l'accompagnant vers peut-être la fin de vie que Dieu veut pour lui, même si c'est dans les premiers jours de vie ou dans les premières semaines. Je veux dire, ça c'est un exemple, à mon avis, dans ce domaine-là, en tant que chrétien, où nous pouvons massivement désobéir, mais je vous garantis que c'est une vraie désobéissance, hein, parce que vous avez 90% de l'establishment médical, je sais de quoi je parle, qui va vous dire, écoutez, c'est beaucoup plus simple, avant que vous ayez un lien avec votre enfant, tout va être réglé rapidement. Voilà, dans ce domaine-là, on y est sensible, mais je pense qu'il ne faut pas séparer les domaines. Et par exemple, dans le domaine du service militaire, j'étais autrefois, faisais partie d'une alliance des objecteurs, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a perdu, là je m'adresse aux jeunes, ça a perdu de son intérêt, de son actualité, parce qu'il y a une armée de métiers. Donc voilà, on sous-traite, hein, c'est la mode. Hein. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on sous-traite. Quoi. Donc là, on en sous-traite notre défense. Et c'est vrai que l'armée de métier a aussi acquis des lettres de noblesse lors d'interventions, d'interpositions dans des conflits. Mais à l'inverse, je pense qu'en tant que chrétien, y compris évangélique français, on abandonne complètement toute intervention au niveau de l'Assemblée nationale. Nos députés, on ne les voit pas, on ne leur dit rien. Et quand notre gouvernement est tenté de servir de gendarme dans les régions du monde, ben, ma foi, cette logique militaire demeure, et puis on voit bien qu'il y a des, entre guillemets, bavures par moment, ou alors il y a une forme de patriotisme déplacé. Et puis en tout cas, il y a des dépenses démentielles qui sont, ben, ma foi, financées par nous. Alors c'est vrai qu'il y a quelques mouvements chrétiens qui tentent des démarches de lobbying au plan législatif, et ils pointent en ce sens vers la désobéissance civile. Alors vous voyez, il y a eu les possibilités de désobéir aux autorités, mais pour obéir à Dieu, je pense qu'elles sont là, et je prie que le Saint-Esprit nous aide à trouver des voies créatives pour être des disciples obéissants à Jésus, même au prix de la non-conformité ou de la désobéissance civile aux autorités, quel qu'en soit le prix. Alors, je vous signale que ce thème a été proposé dans le cadre du Dimanche pour la paix, qui est proposé aux églises mennonites annuellement. Et on fait une proposition, mais c'est une pure proposition. Je n'en ai même pas parlé à John. Tu l'avais vu, je crois, ou pas? Ouais, bon, enfin, peu importe. Voilà, je dis c'est une pure proposition. Donc, on propose chaque fois des destinations pour la collecte. Mais ça peut être aussi des dons que vous ferez au titre personnel. Et il y en a deux qu'on vous propose. C'est l'ACAT, donc l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui est représentée ici à Ferney, dans la région. Et puis le CPDH, Comité protestant évangélique pour la dignité humaine. Pour moi, c'était important, et pour nous, c'est important de ne pas séparer les domaines de l'éthique ou de la désobéissance. Nous qui sommes souvent forts en éthique individuelle et familiale ou sexuelle, on doit aussi pouvoir rejoindre peut-être la tendance protestante qui est plus ouverte aux problèmes sociétaux. Voilà, que le Seigneur vous inspire, nous inspire dans son chemin vers lui. Amen.
Voilà, je vous propose, dans l'esprit de ce qui était dit au début, de descendre avec nous à Bellegarde sur Valserine. Alors, je ne sais pas ce que ça vous dit, Bellegarde. La zone. Alors, pour les marcheurs, peut-être les pertes de la Valserine. Pour ceux qui ont conscience d'eux-mêmes, ben, au carrefour du monde, hein, c'est le centre TGV entre Genève, Paris, Lyon. Et c'est là que nous nous sentions aussi appelés. Alors, ça n'est pas tout récent. Déjà dans les années 80, Claude Becher avait vu la nécessité d'implanter une communauté fraternelle là-bas. Et je sais que parmi vous, il y en a d'autres aussi qui ont eu cette vision, qui ont prié pour qu'il y ait un témoignage d'une communauté chrétienne, évangélique. Alors, il y a deux églises, catholiques et protestantes, sur Bellegarde. Mais il n'y avait pas encore de noyau évangélique. L'église mennonite de Saint-Genis-Pouilly a pris la vision à cœur et à partir de 2012, un petit groupe s'est retrouvé là-bas pour... 2010, il y a eu la première étude biblique à Bellegarde. Avec un petit groupe qui s'est retrouvé tous les mois. Et depuis, alors en fait, 2012 pour nous et 2013 pour Christiane et Philippe Zamora, nous avons rejoint ce groupe. Alors, comment ça s'est passé concrètement? Il y a eu la création de l'association culturelle en avril 2013, où nous nous sommes retrouvés pour poser les bases de cette association qui s'appelle Accueil pour tous Bellegarde sur Valserine. Et en août, nous avons acquis la maison qui se trouve 16 rue Lafayette, dans une rue très fréquentée, c'est d'ailleurs même une rue départementale, à Bellegarde et qui a été l'objet d'aménagements. Alors en particulier, le rez-de-chaussée sert d'accueil pour le petit groupe, l'église naissante, et nous habitons au premier étage avec Daniel. Alors là, ce sont les travaux, oui, et c'est pas que la pause, hein, j'y étais et nous avons vraiment bossé, mais la cheville ouvrière vraiment du bâtiment, c'est Charlie Wenger, pour ceux qui le connaissent, avec toute une équipe qui l'a su dynamiser. Notre présence s'articule autour de quelques événements clés mais c'est pas que ça. Pour nous, c'est aussi l'ordinaire qui est important. Mais les événements clés, ben, vous reconnaissez peut-être pour certains d'entre vous. C'est le groupe TOZ en juin 2012. Alain Auderset avec son spectacle en novembre 2013 et la chorale de l'église de Saint-Genis en décembre 2013. Et tout récemment, nous avons eu la visite de Prigent, David et Bettina avec quelques musiciens. Et déjà, alors on s'est beaucoup réjouis parce que dans le Dauphiné Libéré, le journal local, il y a eu un article sur cet événement qui tranchait vraiment avec ce qu'ils avaient écrit en novembre, où ils étaient complètement à côté de la plaque. Et c'est un témoignage vraiment réel à la fois de David et de Bettina. Apparemment, le journaliste était touché. Alors, nous avons aussi eu l'occasion d'accueillir un week-end proclame. Ce sont 17 jeunes qui sont venus pour différentes activités pour la formation. Donc, on a organisé, avec l'accord de Monsieur le maire, un jeu de dames sur la place du marché. Le but, c'était d'entrer en lien avec les Bellegardiens. Une équipe est allée à la maison de retraite et nous avons essayé aussi d'avoir un témoignage dans les bars. En terminant le week-end à Saint-Genis, le dimanche après-midi. Donc, pour résumer, c'est une église avec deux lieux de rencontre. Alors, nous l'appelons, pour éviter de dire que c'est le centre Lafayette, on l'appelle depuis l'AG, là, le centre Ménonite de Bellegarde. Et nous aimerions vous inviter à venir nous voir donc au 16. Alors, les cultes n'ont pas encore commencé. C'est prévu pour le mois de mai à raison d'un culte par mois. Et ça sera le quatrième dimanche pour respecter les cultes protestants qui ont lieu le premier et le troisième dimanche du mois. Voilà, donc si vous connaissez des amis bellegardiens qui souhaiteraient rejoindre un petit groupe, donc pour le moment, nous avons une étude biblique régulière et des temps de prière tous les mardis à 19h et tous les jeudis matins à 9h. Et l'étude biblique, en fait, on informe, c'est pas encore très, très régulier. Et donc les cultes qui vont commencer fin mai, mais surtout un petit groupe qui, par sa vie ensemble, aimerait témoigner de l'amour du Seigneur.
Merci Daniel, merci Marianne, merci à plusieurs titres. D'abord d'être venu en voisin. C'est pas la fête des voisins, mais on a vraiment du plaisir à vous connaître, à vous reconnaître, à entrer aussi par ce biais-là dans ce projet Bellegarde qui est tout près de nous. Chez nous, ici, Bellegarde, on dit c'est là où l'hiver passe l'été. C'est pas très... C'est un petit coin froid, quoi, un petit peu plus froid dans le pays de Gex. Mais en tout cas, on a souvent eu des personnes de Bellegarde, c'est vrai, qui sont passées. On veut se réjouir qu'il y ait quelque chose qui se mette en place à la gloire de Dieu à Bellegarde. Merci aussi pour cette prédication sur l'autorité. Je suis dans une génération qui a eu le privilège de faire son service militaire, je ne sais pas si on veut dire un privilège, et dans la caserne, il y avait le règlement intérieur qui était marqué, il y avait deux articles. Le premier article disait, article 1, le chef a toujours raison. Et l'article 2 disait, en cas où le chef n'aurait pas raison, c'est l'article 1 qui s'appliquerait immédiatement. Donc ça donne un petit peu la notion d'où il faut mettre le chef, chercher où il faut mettre nous, où on doit mettre notre chef en tant que Dieu. Voilà, merci en tout cas, on veut continuer à prier pour vous aussi. Ça nous intéresse de savoir dans quel sens prier aussi pour ce projet de Bellegarde. J'aimerais partager avec vous les annonces concernant les activités cette semaine qui vont s'afficher demain soir. Alors je vais arriver déjà, avant de dire demain soir... Il y a au fond l'urne pour les votes pour le renouvellement du Conseil d'anciens. Elle sera enlevée aujourd'hui. Donc il faudrait vraiment penser à mettre ou à venir remettre rapidement vos votes dans cette boîte. Si jamais vous avez encore oublié, éventuellement demain, on jettera un petit coup d'œil dans la boîte à offrandes. Le dépouillement, on le fait demain soir lors du conseil. Vous êtes les bienvenus, si vous voulez venir, à 19h30, participer à ce dépouillement. Mardi, donc, on aura une réunion de membres. Mardi à 20h, je rappelle à 20h, où on donnera les résultats et on abordera, vous avez reçu aussi, les membres ont reçu en tout cas une information, où on abordera le sujet des dons qu'on avait reporté depuis l'Assemblée Générale. Donc, passablement de personnes nous ont contactés pour ça, on les remercie d'avance et on va aussi en discuter demain lors du Conseil pour voir dans quel sens aller. Dans la suite des réunions de la semaine, jeudi la chorale, samedi groupe de jeunes, dimanche prochain café-thé et notre culte à 10h30. Est-ce que j'ai oublié des annonces pour cette semaine ? Alors sinon, j'aimerais vous donner des sujets de prière pour la semaine. On a parlé de Rachel qui était là et on est super content de te voir. C'est vrai que c'est un sujet de reconnaissance, on est vraiment reconnaissant et on veut continuer à prier pour que Dieu te guérisse pleinement et totalement, Rachel. En tout cas, on est super content de vous voir les deux ensemble. Ça fait un moment que ce n'était pas arrivé, ça nous réjouit en tout cas. Merci de votre présence. Deux ou trois informations aussi concernant des personnes qui sont souffrantes ou qui ont, suite à des différents problèmes, Raymond devra se faire réopérer totalement de sa jambe, repart à zéro un petit peu, c'est ça Raymond ? C'est-à-dire qu'on enlève ce qui a été fait, on démonte ce qui a été fait et on remet autre chose. Donc voilà, c'est de nouveau aussi des mois d'incapacité. On veut aussi vraiment prier pour que ce soit un temps aussi qui soit béni aussi, mais en tout cas que tu sois gardé et que les chirurgiens soient gardés aussi. Anne-Lise m'a appelé hier pour quelque chose de tout à fait spécial. Et je vous invite vraiment à prier pour ça. Ça sera cette semaine la fin, enfin la fin. C'est la fin. La fin du périple des dents d'Anne-Lise. Ça fait 7 ans que ça dure. 7 ans. Et cette semaine, il y aura le jugement définitif concernant les problèmes, les choses qui n'ont pas été faites comme il faut dans son problème dentaire. Donc on veut aussi prier pour que, à quelque part, ça soit quelque chose qui ressorte juste, où la justice soit aussi, passe aussi, et puis pour qu'Anne-Lise puisse accepter aussi la décision qui viendra. On priera pour ça, Anne-Lise, pensez à prier cette semaine.
En tout cas, si c'est le cas, je vous offre le champagne.
C'est pas ça qui doit... Bon, prions pour que ce soit Dieu qui décide. Voilà. La dernière personne que j'aimerais mettre, je suis vraiment sur votre cœur, mais il est déjà sur votre cœur, mais c'est avancé un petit peu, c'est Mike. Mike, enfin, on a pu avoir un contact avec lui cette semaine, et moi, ça m'a terriblement ému aussi. C'est l'idée qu'il a eue au téléphone. Il va pour le mieux dans la situation où il est. C'est un premier contact. Ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant le contacter beaucoup plus, enfin, lui nous contacter. Grâce à Nicolas, on a pu aussi mettre en place aussi des visites avec l'aumônier de Bourg, déjà. Donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Vous pouvez lui écrire. Alors, il y a simplement, on a organisé un petit peu les choses. Vous trouvez là-bas, sur le panneau d'affichage, des petites fiches comme ça. Sur la gauche, vous avez une date pour écrire. On ne veut pas qu'il soit noyé de lettres, mais qu'il en ait régulièrement. Vous avez une date pour écrire, vous prenez, vous écrivez ce jour-là. Et sur la partie droite, c'est une étiquette autocollante avec l'adresse exacte. Voilà. Donc c'est prêt. Vous prenez, vous en faites pas s'il n'y en a plus, on en remettra dimanche prochain. Hein. Les jours sont espacés exprès, donc voilà, vous prenez ça, s'il n'y a plus, on remettra. Continuez à prier pour Mike, c'est hyper important, il compte sur nous, hein, vraiment, et on veut vraiment que ce temps soit un temps béni pour lui aussi.
Et il salue tout le monde, et il remercie tout le monde.
Voilà, et remercie parce que Mike est touché aussi. John ?
La date dessus, c'est la date où on la poste.
Oui, c'est la date où vous postez. Ça arrive le lendemain ou sur le lendemain. Oh, c'est pas d'une importance vitale, mais tenez compte quand même, parce que celle-là est du 7 mai, mais le 8 mai ou le 9 mai, il y en a une autre. Donc c'est bien qu'il puisse avoir quelque chose de régulier aussi. Voilà, donc on se réjouit aussi de pouvoir avoir ce temps de communication. Puis prenez le temps pour mettre, hein, mettez pas simplement 3 mots, prenez le temps pour partager avec lui aussi. Hein, c'est une lettre, pas forcément une toute petite carte tout court avec 2 mots. Vous avez le temps de le faire, comme vous voulez. Voilà. Je vous invite à vous lever et je vous lirai encore quelques versets. Je vais les prendre dans la suite de ce que Daniel nous a apporté ce matin. On a dans la suite de ce chapitre 13 des Romains, deux ou trois versets qui me semblent intéressants. « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et puis à la fin de l'épître de Paul, « À celui qui a le pouvoir de nous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu secret depuis l'origine des temps, à Dieu seul la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. » Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Dieu vous bénisse.